Alors, je suis scientifique, enfin, ma première partie de mon travail a porté en sciences de l'univers. J'ai travaillé en structure des planètes à l'Observatoire Midi-Pyrénées pendant quelques années pour ma première thèse. Et ma seconde thèse, ensuite, a porté sur des questions de philosophie, en particulier philosophie du vivant. Donc, j'enseigne à l'Université catholique de Toulouse ou de Lyon aussi. Je suis aussi également, le responsable d'un plateau éthique d'un consortium de sciences ici à Toulouse. Nous avons beaucoup, on fabrique beaucoup d'Airbus, on fabrique beaucoup d'avions. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'on travaille beaucoup en biotechnologie. Et les biotechnologies, c'est modifier, fabriquer du vivant. Vous allez voir comment. On fait des choses vraiment tout à fait intéressantes actuellement. Et désormais, un consortium dont le nom est Toulouse White Biotechnology, voilà, en français dans le texte, a décidé, lors de sa fondation en 2010, que l'éthique, la philosophie, serait au cœur même du processus scientifique. Et donc moi, je m'occupe en tant que philosophe, eh bien, de travailler avec les biotechnologistes pour regarder un petit peu quelles sont les implications éthiques de leur travail sur le terrain, directement dans les laboratoires. Et ça permet d'avoir, de poser des questions qui sont à l'intersection non seulement de la science et de la philosophie, mais également des questions dont on entend beaucoup parler de nos jours. On ne peut pas allumer un média quelconque sans que désormais on nous parle d'immortalité. Peut-être l'avez-vous remarqué, hein. C'est de plus en plus et de plus en plus. On vous parle même de la mort, de la mort. Pourquoi mourir? C'est ringard tout ça. On mourra plus bientôt. On vous dit qu'on vivra 120 ans, 130, 140, pourquoi pas. On vous dit que finalement un jour on sera immortel. Alors est-ce que c'est une vaste blague? Est-ce qu'il faut y croire? Et qu'est-ce que ça signifie? C'est parti. Alors construire l'avenir, c'est bien aimé. C'est pour ça que quand j'ai regardé le site internet, construire l'avenir dès maintenant. Vous savez ce que c'est que le présent, vous? Vous allez voir que c'est pas une... déjà la question est assez dès maintenant. Qu'est-ce que donc que le présent? Et donc je vais commencer ma première image avec un dialogue avec mon chat. Une certaine nostalgie du présent. Si je vous parle de ça, vous allez voir, regardez les trois images en bas. J'ai mis trois images qui vont rappeler trois mystères. Le premier, reportons-nous il y a 13,6 milliards d'années, quelques jours. Le fameux Big Bang. On en a tous entendu parler. L'univers... Là, c'est le physicien qui vous parle. L'univers aurait commencé dans ce qu'on appelle une singularité. L'univers aurait été à la fois infiniment petit dans une énergie infiniment grande. S'ensuit une déflagration qui est très difficile à comprendre, très difficile même à modéliser. Déflagration qui fait que cet univers, progressivement, d'énergie devient matière, de la poussière de matière finit par s'agréger dans cet univers en expansion. Je passe sur les détails. Parce que cette poussière, d'abord, ce sont des atomes légers, de l'hélium, de l'hydrogène, qui forment les premières étoiles. Au sein des étoiles, vous savez, les étoiles, ce sont des centrales nucléaires extraordinaires qui sont capables de fusionner les atomes. Dans une étoile, de ce qui se passe dans le Soleil actuellement, c'est que les atomes d'hélium et d'hydrogène fusionnent, leur noyau devient plus important, plus gros, si vous voulez, et deviennent des atomes plus lourds. Le carbone va naître, par exemple, dans les étoiles. Et il y a 4,5 milliards d'années, une étoile est morte. Et comme dit très bien Hubert Reeves, elle nous a légué sa poussière. Et sa poussière est devenue notre planète. Nous avons tous nos atomes dans cette salle, que ce soit les murs, nos corps, l'ordinateur, ont tous 4,5 milliards d'années. On prend un coup de vieux déjà. Mais nous sommes vieux. Nous avons tous les atomes qui sont en nous, sont des atomes extrêmement anciens. Qui se remodèlent, qui après notre mort partiront ailleurs. Ils ne pourront pas se perdre comme ça, pas si facilement. Ainsi donc, premier mystère scientifique que les physiciens essaient de percer depuis des siècles, on n'y arrive pas. Pourquoi l'univers aurait-il commencé par ça? Qu'est-ce qu'il y avait avant? Qu'est-ce qu'il y avait avant ce 13,6 milliards d'années? Un autre univers qui aurait été en contraction? Peut-être, peut-être pas. En fait, on n'en sait rien. C'est le tout premier point d'interrogation qui nous fascine depuis toujours, notre causalité, notre origine. Dans ce temps infini à notre échelle, qui est celui du milliard d'années. Et puis sur cette planète dont je viens de parler, assez rapidement, il y a 3,6 milliards d'années à peu près, la planète avait à peine un milliard d'années, s'auto-organise la matière, cette matière inerte, cette matière de roche, cette matière qui est sous notre planète, et bien progressivement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va se développer des auto-organisations, la matière va s'organiser de telle manière à ce qu'elle devienne du vivant. Alors ça paraît complètement fou. Ça paraît complètement fou parce que le vivant, est-ce que vous savez ce que c'est? On va parler de la mort, de l'immortalité, mais il faut d'abord savoir ce que c'est que le vivant. Vous en savez quelque chose? Si on nous demandait de définir le vivant, eh bien ne serait-ce que scientifiquement, on peut compter plus de 120 définitions possibles, tout aussi bonnes les unes que les autres, mais tout aussi insuffisantes. Qu'est-ce que le vivant? En fait, on ne sait rien. Le vivant, c'est un truc qui est tout à fait bizarre. Un cristal, on sait ce que c'est. Un cristal cristallise, c'est ce que j'allais dire, cristal de la matière à des températures, à des pressions données, donne un cristal. Si je réchauffe, il fond. Si j'enlève la température, il cristallise, etc., etc. Un cristal, on peut toujours le fabriquer de la même manière. Le vivant, alors ça, le vivant, c'est très bizarre. Le vivant, c'est d'une très grande fragilité. Ça se complique la vie. Hein, je dis souvent, imaginez-vous une rivière qui remonte une pente. C'est ridicule. Mais le vivant, il fait ça. Le vivant, il se complique la vie, il trouve des stratégies incroyables pour rester au milieu, à l'intérieur d'une petite vacuole, vous savez, d'une cellule. Tout ce qui se passe dans une cellule, c'est d'une fragilité extraordinaire, mais c'est d'une force incroyable à la fois. Et il se complique la vie pour mourir. On a envie de dire tout ça pour ça. Mais comme il veut pas mourir, il se complique la vie pour transmettre les informations qu'il va donner à ses descendants avant de mourir. Donc le vivant ne meurt pas déjà parce qu'il a des descendants. Mais ce vivant, on ne sait pas, c'est le deuxième point d'interrogation. Ce vivant, jusqu'à présent, on n'a pas vraiment... On a des théories, on a des scénarios qui nous permettent de mieux comprendre comment on a pu passer de cette transition de la matière inerte à la matière auto-organisée, puis à la matière organisée vivante. On a un certain nombre de scénarios, mais on n'a pas encore de preuves formelles de cette structuration de la matière inerte en matière vivante. Ainsi donc, il ne serait pas impossible qu'il y ait de la matière vivante ailleurs dans le monde, dans l'univers. Il serait même fort probable qu'il y en ait, mais on ne sait pas encore la trouver. Et alors, deuxième point d'interrogation. Troisième point d'interrogation, c'est que ce vivant, progressivement, eh bien, il s'est complexifié. Vous savez, le premier vivant qu'il y avait il y a 3,67 milliards d'années, c'était essentiellement des êtres, mais ce sont des micro-organismes unicellulaires, et qui se sont complexifiés jusqu'à devenir, nous, des bipèdes, mammifères, humains. Mais pourquoi on est humain, après tout? Pourquoi un singe n'est pas comme nous? Ils ressemblent les singes. Pourquoi sommes-nous pas des singes? Eh bien, c'est une réponse parmi d'autres. Mais l'être humain, un jour, dans un mystère incroyable, a dit « je suis ». L'être humain a pris conscience de lui-même. En disant « je suis », vous savez dire « je suis », c'est absolument extraordinaire. Prendre conscience de ce que nous sommes dans notre corps, dans notre existence, il faut avoir déjà un certain âge. Bien comprendre ça, dire « je suis », c'est moi. Toi, moi, comprendre l'altérité, ce que je suis. Et quand on dit « je suis », il y a un problème. C'est que n'importe quelle langue humaine le fait. Si je dis « je suis », je peux dire « j'étais ». Si je peux dire « j'étais », je peux dire « je serai ». Demain, je serai là. Après-demain, je serai là. Et puis dans 100 ans, ça c'est sûr, je serai mort. L'avènement de la prise de conscience de soi par l'humain amène nécessairement à l'avènement de la prise de conscience de la mort. Ainsi, l'humain, lui, a totalement perdu le sens du présent, contrairement aux animaux, c'est pour ça que j'ai mis une photo de mon chat. Mon chat, lui, il vit complètement dans le présent, beaucoup plus que moi, disais-je. Dans la mesure où lui, il ne s'inquiète pas sur son avenir. Il ne sait pas dans sa conscience personnelle qu'il va mourir. Moi, la seule chose que je sais, c'est que j'étais et que je serai. Et le temps du présent m'échappe. Et m'échappe quasiment de manière définitive. Pour retrouver le présent, quand on discute avec nos frères moines, trouver le temps de la conscience de soi, du présent, trouver ce temps du présent, c'est un travail. Tout le monde n'y arrive pas. Les animaux sont dans le présent. Mon chat, il veut jouer maintenant. Il a faim maintenant. Il n'est pas content maintenant. Il se dit pas, tiens, j'aurais mieux fait de pas manger hier parce qu'aujourd'hui je suis ballonné. Et je ne le referai donc plus. Je mangerai moins. Non. C'est-à-dire, ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que l'humain, troisième mystère, a traversé ce que j'appelle le mur du temps. L'humain a perdu quelque chose quand il est devenu humain, il a perdu le présent. Et vous allez voir que c'est très important parce que comme on a perdu le présent, eh bien on aimerait avoir autre chose, peut-être l'immortalité. Parce que ce présent, il nous échappe. Et tout ce que nous savons, c'est que le temps va nous tuer. Je rappelle que certaines langues, comme l'hébreu, n'ont pas de présent. En hébreu, on parle à l'inaccompli ou à l'accompli. Il n'y a pas de présent, tout simplement. Ainsi donc, voici le troisième point d'interrogation. Le premier, pourquoi l'univers est... Comment cette structuration de l'univers est-elle faite? Deuxièmement, le vivant, qu'est-ce que c'est? Troisièmement, la conscience de soi et la perte du temps. Mais le vivant, et c'est là où on va y venir pour cet après-midi, le vivant maintenant on le connaît de mieux en mieux. Et les biotechnologies, et on va y revenir, les biotechnologies eh bien, nous apprennent de mieux en mieux à connaître les structures du vivant et vous allez voir qu'on est capable même de modifier le vivant à une profondeur peu connue, en tout cas en France. En France, on est encore dans le problème des OGM. Et les OGM, si vous voulez, c'est une question qui date quasiment de l'Antiquité. On sait faire des choses bien plus importantes de nos jours. Donc, voilà la question que je vous pose, que je poserai devant vous cet après-midi, est la suivante. Les biotechnologies, je reviens sur ces termes, nous conduisent-elles à confondre présent éternité et immortalité. Je crois que vous avez travaillé sur ces notions, hein. D'éternité et d'immortalité. C'est vrai que nous venons d'une société où le paradigme était celui de l'éternité, hein, l'éternité divine. Et maintenant, peut-être que le paradigme est-il en train de passer vers l'immortalité. L'immortalité peut avoir un début, mais pas de fin. Et on va se poser la question de savoir si, effectivement, les biotechnologies nous amènent à penser le vivant avec un début et sans fin. Donc voilà, je vais parler sur deux points. Deux points principaux, je vais vous parler d'arbres, d'hommes, de confusion, de serpents, vous voyez où je vais en venir. Et ensuite, je vais parler de la mort. Et on va se poser la question de savoir si la mort, c'est tout simplement une simple information. Et on va voir ce que ça a comme conséquence philosophique et physique. Alors voilà, je pense que ça vous rappelle des choses, n'est-ce pas, hein, cette histoire-là. Alors cette histoire est intéressante. Et si je vous la mets sous les yeux, c'est que cette histoire, elle a quelque chose de particulier, c'est que quelqu'un qui ne connaît rien à la Bible, mais rien, hein, que dalle, qui n'a jamais ouvert ce livre, c'est ça. Ça, il le sait. Hein. C'est un truc qu'on voit dans les publicités. Alors, il n'y a pas de pomme, hein, c'est une traduction du latin mauvaise, il n'y a pas tout ça. Il y a beaucoup de choses qui ont été ensuite reprises dans la mythologie contemporaine. Mais la mythologie de l'Occident s'est construite aussi sur ça. Car en effet, la connaissance du bon et du mauvais, du bien et du mal, passe par cette connaissance au travers d'une injonction, on va revenir sur cela, et qui amène à la mort. Je vous rappelle qu'ils sont tranquilles, ils sont à poil, ils sont dans le jardin d'Éden, tout se passe bien pour eux, ils ne mangent pas d'animaux, ils mangent des fruits, des arbres, et ils se contentent de ce qu'ils ont, et ils n'en connaissent pas la mort. Rien ne dit qu'ils sont dans cet Éden-là, et ils vont effectivement connaître la mort après avoir connu cet épisode de la connaissance de l'arbre de la connaissance, du bon et du mauvais. Et du reste, Genèse 3 s'ouvre sur Genèse 4, et Genèse 4, on le sait bien, s'ouvre sur Adam connu Ève, ils ont des enfants. C'est-à-dire que dès lors qu'on a la connaissance du bon et du mauvais, le vivant va se déployer, mais différemment. Là, on est dans le jardin d'Éden, on est encore dans une autre époque, et cette époque-là, édénique, elle est au fond de nous, elle est mythique, elle est mythologique pour certains, elle est de l'ordre de l'acte de foi pour d'autres, ou les deux, mais ces éléments-là ont structuré profondément, ça je crois que même quelqu'un de athée pourrait le dire, ces éléments-là, cet arbre de la connaissance a structuré notre vision du monde, en tout cas en Occident. Et qu'est-ce que passe-t-il dans ce texte-là? Et c'est là où j'aimerais y revenir, parce qu'on va voir qu'il se passe des choses intéressantes. Eh bien, en Genèse 2:17, hein, il y a une injonction. Alors, je vous ai mis le texte en hébreu, ça, c'est pas pour m'obliger de regarder l'hébreu, mais c'est que le texte hébreu a des finesses qui ne sont pas traduites en français. Comme je vous l'ai mis là, hein, l'injonction divine dit bien, de la part de Dieu, l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais, tu n'en mangeras pas, car du jour où tu en mangeras, mourir de mort, tu mourras. Ça dit pas tu mourras en hébreu. Il y a deux fois le mot mort qui se succède. Il y a en gros, le texte hébreu veut dire de mort, tu mourras. C'est bizarre. Pourquoi répéter? De mort, tu mourras. C'est assez mystérieux. Moi je vous dis, vous allez mourir de mort. Vous pensez à quoi? Ça paraît bizarre. Ça paraît curieux. Continuons. On peut se poser la question, parce qu'en hébreu, vous savez, on dit souvent qu'en hébreu, la juxtaposition de mots de même racine vient insister sur quelque chose. Ça vient dire, oh, tu vas vraiment mourir. Hein, quand on rajoute deux fois le même mot, ça veut dire tu vas vraiment mourir. Ce que les Bibles en français, généralement, ont repris, mais qui demande quand même une note de bas de page dans la mesure où ce n'est pas certain. Ça peut être une nuance aussi. Hein, comme je l'ai dit, c'est est-ce que tu vas vraiment mourir ou est-ce que tu vas mourir de quelque chose? Et de quelle mort s'agit-il? Première chose. Ensuite, si vous regardez le texte grec, c'est intéressant parce que vous regardez la Septante, ce qu'on traduit en grec la Bible, eh bien les Grecs qui n'ont pas du tout, alors en grec, cette idée de juxtaposer des mots de même racine, ça se fait pas. C'est inélégant au possible en grec. Ben là, ils le redisent. De mort, vous mourrez. Ah tiens, encore. Et alors, ce qui est intéressant, c'est Symmaque, hein, donc on connaît un petit peu moins, la traduction grecque de Symmaque, qui va encore plus loin, qui dit « tu seras mortel ». Ah, intéressant, de quelle mort doit-on mourir, hein, devant cette connaissance du bon et du mauvais? Et surtout, est-ce que finalement, cette connaissance du bon et du mauvais, est-ce que c'est l'arrivée de la mort? Mais de quelle mort? Mais physique peut-être, on va voir. Genèse 3, alors là, c'est l'humaine, hein. À l'époque, elle ne s'appelle pas encore Ève, elle s'appelle Chaïva, hein, c'est Ish et Isha, hein, en hébreu, c'est l'humain et l'humaine, ils s'appellent pas, ils n'ont pas encore de nom, et Isha, elle va se retrouver devant un certain serpent, tout à fait intéressant, ce serpent, au moins sur ce plan-là, parce que le serpent, eh bien, il pose la question à l'humaine, il dit, mais si tu fais ça, il y a la confusion, bien sûr, on connaît tout ça, mais que va-t-il se passer? Eh bien, l'humaine, elle a l'air de se tromper. Elle dit, si on en mange, nous mourrons. Pas de répétition du mot mort dans le texte hébreu. Et le serpent, il corrige. Non, Il corrige, il remet, il dit, non, vous mourrez. Non, 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 il dit pas ça. Il dit, non, de mort, vous mourrez. Il corrige. On a l'impression qu'à l'injonction divine, mort, mort deux fois, ce que pense la femme quand on lui pose la question, une seule fois le mot mort. Et ensuite, la promesse du serpent qui corrige quelque part et qui reprend la véritable injonction divine. Et donc, du coup, effectivement, le texte que je vous l'ai vu, le texte qu'il soit grec ou latin, reprenne bien ça. Le serpent a l'air de dire, attention, non, il va se passer quelque chose, ok, mais ce n'est pas ce que vous croyez. Alors évidemment, on connaît la suite. Le fruit de l'arbre est consommé, leurs yeux se dessillent. Et vous vous souvenez de la première chose qu'ils font, qui est tout à fait intéressante? Le premier truc que font les humains dès lors qu'ils ont la connaissance du bon et du mauvais. Eh ouais, alors ils font une ceinture. Alors le texte français dit un pagne, très pudique latin. Ils se font une ceinture. Il n'y a pas de cache-sexe nécessairement là. Une ceinture en hébreu, c'est extrêmement important parce que, un, c'est un objet technique. Il détourne la nature pour en faire ce pourquoi elle n'est pas faite. On prend des feuilles de figuier et on les coud selon un plan d'ingénieur, d'une certaine manière, pour en faire un objet. Donc, la connaissance amène immédiatement sur un objet technique. L'humain ne sera plus jamais autre chose qu'autour et faisant des objets techniques. L'homo faber. C'est ainsi que cette salle, qui est artificielle, qui est en béton, est naturelle à l'homme. C'est pour nous, c'est notre nature. Parce que dans une salle, nous allons transmettre des informations, parler, échanger. Nous allons, tout simplement aussi, nous protéger du temps. Du temps qu'il fait, bien sûr. Mais c'est cela. C'est ça qui est très intéressant. C'est que l'humain se fait donc une ceinture. Qui est donc, un objet technique. Et deux, la ceinture. En hébreu, vous le retrouverez dans le texte de l'Exode. La ceinture, on la met au rein. Ça veut dire qu'on est debout, on attache des choses et on est en chemin. En hébreu, ce sens de la ceinture, c'est pas du tout le pagne cache-sexe dont on peut imaginer les traductions un petit peu courantes parfois. C'est aussi quelque chose de très symbolique. Je fais un objet technique qui va me mettre en chemin. Je ne suis plus rien sans l'objet technique, car je suis simplement un humain. Mais cet humain, comme il a l'objet technique, il a aussi, vous savez, c'est très prométhéen cette chose-là, il a la connaissance, il va essayer de découvrir ce qu'est la nature. Et il va, petit à petit, dominer les animaux, comme on le sait, mais ça c'était la promesse de Dieu. Mais attention, il va dominer la terre, mais il va commander aux animaux. Les mots n'est pas le même non plus en hébreu. Il aura une responsabilité sur tout ce qui est vivant, beaucoup plus que sur ce qui n'est pas vivant. Ainsi donc, ayant chassé l'homme, il posta en avant du jardin d'Éden, vous connaissez cette dernière phrase, des kéroubim avec la lame et de l'épée flamboyante pour garder le chemin, comme par hasard de l'arbre des vies, Achaïm. Lévi. Il va, et ça c'est très important, l'humain qui a la connaissance, qui va connaître la mort. Il y a une seule chose qu'il aimerait bien avoir maintenant en plus du bon et du mauvais, quelque part c'est certainement ce mystère de la vie. Alors là, Dieu ne plaisante plus, il ne rigole plus, et il met, parce que les kéroubim avec l'épée flamboyante, je crois qu'il ne faut pas aller les voir, ceux-là ils n'ont pas d'humour. Ceux-là ils sont là pour garder, et une chose qui est certaine, c'est qu'on ira un peu partout, mais là on n'ira pas. Donc le seul interdit que nous avons conservé dans notre inconscient collectif, c'est 1, nous ne pouvons pas toucher à la vie. 2, nous avons l'objet technique, la science, qui va nous permettre de connaître la nature. Et bien précisément, les biotechnologies, c'est la convergence des deux. Est-ce que nous sommes en train de nous engager sur le chemin de l'arbre des vies au travers de nos biotechnologies? Ça c'est la question qu'on va essayer de se poser, et parce que pour nous c'est très important, il y a du tabou. Vous savez, dans le vivant, on ne sait pas trop ce que c'est, mais dans le vivant, on y met beaucoup, beaucoup de concepts selon nos sociétés. Chez nous, en Occident, le vivant est souvent perçu comme une création de Dieu. Le vivant, on n'y touche pas comme ça. Le vivant, on se dit, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. C'est quelque chose qui est à part. On ne va pas parler du vivant comme on parlerait d'un caillou. Et pour nous, donc, du coup, ça va vraiment nous amener à nous poser la question à nouveau frais grâce aux biotechnologies. Donc du coup, après la connaissance originelle, et j'écris, l'humain connaît la mort physiologique, mais ne peut accéder à l'arbre, au chemin de l'arbre des vies. Car en effet, il va connaître cette mort physiologique qui est pour nous extrêmement intéressant. Nous allons connaître quelque chose qui est un passage qui nous fait peur, qui nous inquiète parfois, qui nous angoisse, tout ce qu'on voudra, mais c'est une certitude. Vraiment, est-ce que c'est vraiment une certitude? Et c'est peut-être là où le 21e siècle arrive. De quelle mort s'agit-il? Car en effet, la mort, ça peut être plein de choses, la mort. Je vous ai parlé de la mort totale, que j'ai appelée totale, entre guillemets. La mort qui est par privation de vie, c'est-à-dire privation d'être, dans le sens, on pourrait dire, philosophique du terme. La mort totale, c'est que vous n'existez plus. La mort vous amène votre non-existence. Vous n'existez plus. Vous n'avez aucune existence du tout. Ou est-ce que c'est la mort mnésique, que j'appelle mnésique, privation de vécu. On oublie des choses. On oublie ce que nous avons vécu. Et heureusement, vous imaginez si on devait se souvenir de tout ce que nous avons fait, de tout ce que nous avons dit, ou de tout ce que nous avons pensé. Je crois qu'on ne serait pas toujours à l'aise. Donc effectivement, nous oublions, et parfois on oublie vraiment, on part dans cette mort mnésique. Et puis ça peut être tout simplement la mort physiologique, qui est la privation de vivant. Et là, j'aimerais revenir sur ces termes, car on ne confondra pas, selon moi, la vie, le vivant et le vécu. Le vivant, eh bien, pour le biologiste, c'est l'ensemble des fonctionnalités qui font que le vivant vit. Ce que l'on peut voir dans une cellule organisée. On voit des fonctionnalités que l'on peut décrire scientifiquement. Le vivant, donc, a une cohésion, même thermodynamique. On peut décrire des choses qui sont vivantes et des choses qui ne le sont pas. Le vécu, pour nous, ce sont nos souvenirs. Nos souvenirs, ce qui font que nous sommes nous-mêmes. Si je reprends le vivant, nos corps vivants dans cette salle se valent. Nous avons des mâles et des femelles, je dirais. C'est tout. Mais à part ça, qui nous différencie fondamentalement, on peut se donner les organes, le sang. On peut, je dirais, de manière un peu triviale, concernant la tuyauterie, les choses se ressemblent beaucoup et elles sont interchangeables. Mais si je prends ne fût-ce que le nom d'une seule personne parmi vous, eh bien ça c'est une vie, c'est un vécu. C'est quelque chose qui ne peut pas s'échanger. Chacun d'entre nous, nous avons notre propre relation à notre vivant, à notre temps, à notre histoire, qui fait que nous sommes tous absolument unique. C'est le vécu. Et la vie, c'est ce qui fait que le vivant vit. La vie, c'est cette espèce de chose un peu étonnante qui fait que l'on peut admettre que le vivant vit. Donc vie, vivant, vécu, s'il manque la vie, eh bien il manquera celui qui donne la vie. S'il manque le vivant, ça sera la mort physiologique. Et s'il manque le vécu, ça peut être la mort mnésique. Ainsi donc, la mort totale, eh bien, si je parle de mort totale, comme je viens de vous le dire à l'instant, eh bien, la privation de vie, ça serait la privation d'être. La privation d'être, carrément. Je ne sais pas si vous voyez. Priver quelqu'un d'être, c'est, il faut être soi-même le maître de l'être. Ben là, j'ai mis, c'est celui qui donne la vie. Là, il faudrait que celui qui donne la vie prive de quelque chose. Ou qu'il soit lui-même inexistant. Lutter efficacement contre la mort totale, ainsi, ce serait remplacer celui qui donne la vie, remplacer Dieu. Si on admet dans nos sociétés que le maître de la vie, le maître du temps, c'est Dieu, j'ai pas dit du vivant, ni du vécu, mais de la vie. Alors la privation d'être, il faudrait que je remplace Dieu. Moi, en tant que scientifique, est-ce qu'un jour je peux remplacer Dieu et devenir moi-même celui qui donne la vie? Pas le vivant, mais la vie. Ainsi donc, le chemin interdit de l'arbre des vies, ça serait la fameuse phrase, le fameux playing God dont on entend souvent parler, c'est-à-dire l'appropriation de la vie. Appropriation de celui qui donne la vie. C'est-à-dire, est-ce que les biotechnologies, les sciences vont m'amener sur ce chemin de l'arbre de la vie, de l'arbre des vies, et est-ce que finalement, nous, scientifiques, nous sommes capables de nous placer à la place de ceux qui donnent la vie? La mort mnésique, privation de vécu, je vous ai dit à l'instant, ce serait une privation physiologique de souvenirs, ça nous arrive à tous. Ça arrive. Et enfin, la mort physiologique, c'est la privation non plus de la vie, mais du vivant. C'est autre chose. C'est-à-dire que là, l'arrêt des fonctions physiologiques, vitales. On s'arrête. Arrêt de du vivant. Et lutter efficacement contre la mort, ce serait donc remplacer ou améliorer les fonctionnalités du vivant. Et c'est là où nous touchons notre terme de ce jour. Car en effet, si je ne vais pas vous parler de savoir si nous allons pouvoir remplacer Dieu, c'est pas le but de la conférence de ce jour, mais c'est peut-être en filigrane ça, mais ce qui n'est pas en filigrane, c'est de savoir si nous pouvons remplacer le vivant, le modifier, l'améliorer, de manière à ce qu'il ne s'arrête plus, qu'il soit donc immortel. C'est ainsi que la vie, le vivant et le vécu peuvent être pensés selon moi. Alors voilà, la mort, est-ce que c'est une information? On y reviendra, car en effet, vous savez, toutes les molécules qui sont dans notre corps vivant sont en relation les unes avec les autres. On va voir cette notion aussi de relation, elles ne sont pas en rapport mais en relation, et se donnent des informations. Elles se donnent elles-mêmes se donnent des informations, et ces informations permettent de faire en sorte que l'ensemble des circuits du vivant puissent être cohérents. On sait s'il y a de l'eau qui arrive, s'il n'y en a pas, etc., etc. Et c'est extrêmement intéressant. Et je prends souvent la comparaison. Il y a des fleurs ici. Elles ont été coupées de leur milieu naturel. Est-ce qu'elles sont mortes? Est-ce qu'elles sont vivantes? Ah ben, il faut savoir. Ben, j'en sais rien, moi. Parce que regardez, vous prenez une plante. Elle est tranquille dans son champ. Vous lui coupez la tige. Eh bien, il y a une information dans la tige qui dit, c'est fini, il n'y a plus d'eau, plus de sève. Il faut donc tout déconstruire. On appelle ça la mort. Mais il y a des contre-informations qui disent pas du tout, on n'a pas envie, s'il faut la flotte, elle n'est pas bien loin. Et donc on voit parfois arriver, même si on ne met pas les fleurs en pot, quand on les pose tout simplement, dehors, coupées par terre, on voit des petits rhizomes qui se remettent en place. Une contre-information qui dit non, 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 je ne mourrai pas, non, non, on va trouver de l'eau. Jusqu'à ce que l'information finale, elle, dit non, il n'y a vraiment pas d'eau. Et là, effectivement, il y a déstructuration de la cellulose et la plante se décompose. C'est une information. Donc est-elle morte? N'est-elle pas morte? Oui, c'est intéressant ça. Et donc, on va essayer de regarder un petit peu comment ces axes de recherche, information et fonctionnalité vont nous aider dans les biotechnologies contemporaines pour comprendre cette question de l'immortalité. Donc, deux points, état de la question, et ensuite, j'essaierai de réfléchir avec vous sur penser la vie et le vivant. Or, état de la matière, c'est tout simple, on connaît tous, hein. Les cellules vivantes, eh bien, il y a beaucoup de choses. Ça peut être des cellules de notre organisme, ça peut être aussi des gamètes. On va voir, c'est extrêmement important, des gamètes qui ressemblent à des micro-organismes finalement, sont unicellulaires. Et dans les cellules, effectivement, il y a un certain nombre d'organites qu'on ne va pas rentrer dans les détails. Mais ces organismes, ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'on prenne les parois, hein, les parois cellulaires, on sait les fabriquer de manière artificielle. On sait fabriquer de l'ADN, on va y revenir. On sait fabriquer énormément de fonctionnalités du vivant naturel. On sait même en faire des fonctionnalités nouvelles. Et donc ce vivant, finalement, on pourrait très bien se poser la question de se dire, mais finalement, est-ce que c'est une cellule vivante, est-ce que c'est une machine? Parce que l'intérêt de l'immortalité, c'est si on était sûr que le vivant était comparable à une machine, alors ça serait intéressant pour nous, parce qu'on pourrait changer les rouages, les boulons, et maintenir la machine le plus longtemps possible, mais encore faut-il que ce soit une machine. Et c'est la grande question actuellement des bio-nanotechnologies. Pour la plupart, on va dire, des personnes qui travaillent sur ces questions-là, on va admettre que le vivant est une machine. On l'admet. On peut pas le démontrer, mais on l'admet. Comme ça permet pour l'ingénieur de mieux comprendre ce qu'il a devant lui, de mieux le modéliser, de mieux le concrétiser dans une pensée d'ingénieur. Ainsi donc, voilà, la question est là. Est-ce que mes bactéries que j'ai mis sur la gauche, est-ce que tout ça c'est du Lego? Est-ce que si je prends des Lego, est-ce que finalement, à force de prendre des Lego compliqués, est-ce que je vais faire du vivant? Et c'est exactement les deux types de biotechnologie actuelles. Les biotechnologies qu'on appellera top-down, de haut en bas. Il s'agit de simplifier le vivant, on prend une bactérie, et vous la simplifiez au maximum pour voir si vous arrivez au bout d'un moment à avoir quelque chose qui serait parfaitement contrôlable et qui ne pourrait plus évoluer, qu'on pourrait vraiment, vraiment contrôler et dont on pourrait vraiment s'approprier entièrement l'usage. Et ça, c'est donc essayer de se dire, mais je vais essayer de, par exemple, fabriquer des organites du vivant artificiels. Et ça, donc, du coup, on va vers le Lego, petit à petit. On simplifie et on cherche à savoir si chaque Lego est une fonctionnalité du vivant. Hein, on va essayer de décrire précisément chaque Lego qu'il y a dans le vivant. Et les deuxièmes biotechnologies, un peu plus compliquées, qui sont des biotechnologies bottom-up, c'est-à-dire de bas en haut, eh bien, on prend les Lego qu'on a découverts et on les met ensemble pour voir si ça va vivre. Vous voyez bien, la chose est importante, c'est que la question est là. Est-ce que, finalement, l'ADN, c'est du Lego? Revenons-y sur cet ADN. La fameuse molécule d'ADN. Rappelez-vous, 1953, c'était certes la mort de Staline, mais c'était aussi la découverte de la structure en double hélice de l'ADN. La structure en double hélice de l'ADN qui nous a amené à mieux comprendre le fonctionnement du vivant. Or, cet ADN, on s'est entièrement le fabriqué. Ça, c'est extrêmement important. Depuis 2010, une bactérie, Mycoplasma Laboratorium, vit avec un ADN entièrement fabriqué, mais je dis bien entièrement, par l'humain. Jusqu'à présent, je vous disais tout à l'heure que nous nous intéressons beaucoup aux questions autour des OGM. L'OGM, c'est une transgénèse, c'est-à-dire on va prendre un gène qu'on va modifier dans un génome. Là, on est capable de modifier tout le génome. Ça, c'est extrêmement important. Et ainsi donc, l'humain est capable, déjà, de fabriquer cette fameuse molécule d'ADN qui va orienter le vivant vers des chemins qu'il n'a peut-être jamais encore pris. D'autre part, et ça va encore plus loin, vous savez que on pense que le vivant sur la planète Terre a probablement une origine unique, et une des preuves qu'on en donne est de dire que notre ADN à tous, plantes, humains, chats et chiens, est fait de 4 bases azotées. Enfin, une cinquième. Hein, A, T, G, C, et puis le U, vous savez certainement ça. Eh bien, ces 4 bases azotées, ces quatre molécules qu'on retrouve partout dans le vivant, eh bien, on les connaît tellement bien que certains de mes collègues se disent « Mais pourquoi on n'en fabriquerait pas d'autres ?» Eh bien, depuis quelques années, des bactéries, ou plutôt des micro-organismes vivants, vivent avec de l'ADN dont le code n'est plus naturel. C'est ni A, ni T, ni G, ni C. Donc on a inventé un nouveau code. Donc l'humain là, commence à avoir des idées pour modifier le vivant, l'orienter vers des chemins complètement inattendus. On est même capable de coder des informations génétiques avec du chlore. Alors que le chlore, normalement, ça tue. Non, on peut mettre du chlore dans l'ADN et ça fonctionne. C'est complètement artificiel, mais ça fonctionne quand même. Voir les travaux de Philippe Marlière à ce sujet. Donc la question est donc, maintenant, qu'est-ce que ça nous amène pour penser et pour se dire que grâce à tout ça, si on est vraiment dans du Lego, si on est capable de trouver les fonctionnalités du vivant, est-ce que je vais être ainsi capable de me retaper toujours plus, pour ne plus avoir à mourir? Et vous avez certainement beaucoup entendu parler ces dernières années de la question du transhumanisme, n'est-ce pas, chers collègues? La question du transhumanisme qui depuis maintenant des années fascine nos contemporains, à savoir, nous sommes humains parce que nous avons hérité de notre humanité par nos parents, mais peut-être allons-nous devenir des transhumains parce que nous allons nous construire nous-mêmes. Nous allons devenir ce que nous sommes parce que ce sera notre volonté et non pas parce que ce sera un désir des parents. J'y vois bien, je veux y voir mieux. Je veux avoir une troisième main, pourquoi pas, que sais-je encore. C'est-à-dire que je veux que mon corps, je puisse en faire complètement ce que je veux, et d'une certaine manière, pour justement montrer que la nature a des ressources insoupçonnées pour faire en sorte que je puisse vivre bien plus longtemps. Alors je vais vous parler un petit peu des stratégies du vivant. Comment le vivant fait pour finalement avoir certaines stratégies qui sont intéressantes. Une bactérie, est-ce que ça meurt? Oui, ça meurt. Mais des fois, ça n'a pas envie de mourir. Si elle n'a plus de nutriments, si elle n'a plus de quoi survivre, elle peut sporuler. La sporulation, hein, c'est-à-dire qu'elle va en fait, ça va simplifier son métabolisme, elle va se recroqueviller, si vous voulez, dans une toute petite coque, et elle va attendre des milliers d'années, elle s'en fout, elle attend que de l'eau revienne pour revenir. La sporulation, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est-à-dire que là, vraiment, il y a le vivant est capable de vraiment de ralentir de manière quasiment totale son métabolisme pour pouvoir attendre des jours meilleurs. Et là, tranquillement, pendant des siècles ou des milliers d'années, c'est ce qui s'est passé. Les fameuses pyramides d'Égypte, là, quand on parlait de la malédiction des pyramides. Ben, les gars, ils sont rentrés dans une pyramide, ils ont respiré des spores d'aspergillus, ils sont rentrés dans leurs poumons, ils sont morts, quoi. Voilà. Ça attendait depuis 2000 ans, tranquille. Et quand c'est rentré dans les poumons des explorateurs au 19e, maintenant, dans le milieu humide des poumons, ben voilà, ça s'est développé. Et donc, vous avez donc du vivant qui, quelque part, se met au ralenti et revient. Donc, on peut déjà se dire, est-ce que nous, on pourrait se brûler, les humains? Bon, c'est une question. On verra que c'est quand même un peu compliqué, mais c'est une question. En tout cas, il y a une possibilité pour des micro-organismes, donc des êtres unicellulaires, de se freiner eux-mêmes. Mais il y a plus fort. La transdifférenciation. Alors ça, c'est quelque chose qui est moins connu et qui a été décrit il n'y a pas si longtemps que ça. Une méduse. Vous savez, hein, les méduses, ça a des stades de vie autour, déjà sur le sol, accrochés au fond de l'eau, hein, des sortes de coraux, si vous voulez. Puis elle sort de cette structure et donc devient plus libre. Hein, de la méduse que nous connaissons facilement, là, c'est cette méduse bien qui peut faire peur d'ailleurs, et qui finalement achève son cycle de vie comme ça, dans cet état libre. Mais il existe une méduse qui est très très étonnante, Turritopsis nutricula, qui elle a été décrite comme si, dans les cas où elle pourrait être blessée, ou dans les cas où l'état libre de la méduse est en danger, on a l'impression qu'elle rajeunit entre guillemets. Elle revient dans son temps passé, elle redevient la méduse qui était plantée dans le sol, l'état larvaire, si vous voulez. Elle se redéploie et recommence. Alors ça a été décrit il y a pas si longtemps que ça, plus de 10 cycles comme ça, où la méduse, on a l'impression qu'elle ressuscite. Plutôt que de mourir, elle se rajeunit et reprend sa forme. C'est très très étonnant, et ça c'est quelque chose qui théoriquement, on pourrait dire, théoriquement elle est immortelle. Parce que si elle le fait, enfin, immortelle, sauf si elle, elle finit par se faire manger, détruire, blesser, mais elle sera mortelle parce que son métabolisme pourrait être détruit, mais elle pourrait éventuellement, de manière infinie, sachant que son métabolisme est touché de manière un peu plus faible, revenir vers son état larvaire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça c'est une seconde chose extrêmement intéressante. Troisième chose, et là ça peut toucher l'humain, les chromosomes. Alors là, je ne sais pas s'il y a des médecins dans la salle ou des personnes qui connaissent ça mieux que moi, mais dans les chromosomes, nous avons à la fin des chromosomes, vous voyez, au bout des bras des chromosomes, nous avons ce qu'on appelle des télomères. Ce sont des zones qui vont avoir comme particularité, d'une certaine manière, d'enregistrer l'âge. Chaque fois qu'une cellule se duplique dans notre corps, quelque part, il y a une sorte de, c'est incrémenté. On le sait. Tac, 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 on le sait. Et là, c'est le corps, c'est en gros, enfin, c'est entre guillemets, il y a une incrémentation du temps dans le chromosome. Donc en fait, on se dit, bien, c'est tout bête. Si on bloque cette mémoire du chromosome, alors il ne saura jamais qu'il est vieux. On le bloque. Et à ce moment-là, ben, il continuera toujours à vivre. Et c'est un petit peu l'idée actuelle. On se dit, mais on pourrait finalement, le compte à rebours, on le bloque, et ça continue à l'infini. Quelque part, les cancers, c'est un peu ça. Hein. Quand on discute avec les cancérologues, un cancer, les cellules se divisent à l'infini, ne sont plus du tout en contact avec le reste du corps. Le reste du corps dit, mais oh, doucement, doucement, mais on ne sait plus. Ça avance. Et puis en plus, c'est des cellules qui vont très très vite. Et effectivement, là, il y a quelque chose où on voit bien que la maladie et l'immortalité sont quelque part un petit peu dos à dos. On se dit, mais finalement, ce qui nous sert à comprendre un peu mieux certains processus de maladie pourrait également nous servir à mieux comprendre des processus de vie. Donc là, on se dit, mais ça pourrait fonctionner, pourquoi pas? Admettons, on n'en est pas là, hein, mais pourquoi pas? Alors la question, c'est de dire, mais le vivant cherche naturellement à repousser le plus possible de la les limites de la mort physiologique, oui, c'est ce qu'il fait. Quelque part, le vivant ne veut pas mourir. Et alors on peut se poser la question, à ce moment-là, la connaissance fine des fonctionnalités du vivant permet de comprendre les mécanismes physico-chimiques du vieillissement cellulaire, c'est évident, on le connaît de mieux en mieux ça, on peut avoir un combat contre le vieillissement de plus en plus fort, mais attention, ça c'est une zone piégée, parce que si nous connaissons de fait, de plus en plus et de mieux en mieux, les processus de vieillissement cellulaire, ça ne veut pas dire que nous allons devenir immortels. En effet, premièrement, la sporulation dont je vous ai parlé, eh bien ça c'est valable uniquement pour certains micro-organismes, pour l'humain, non, on ne va pas sporuler, on est trop compliqué, on oublie. Le clonage. Ah, le fameux clonage. À lui-même, par contre, on peut être cloné. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vous savez que depuis que la brebis Dolly a été clonée, est-ce qu'il n'y a pas de clone humain sur Terre? J'en sais rien. Hein. A priori, on est vraiment dans l'ordre de l'interdit. On est dans l'ordre des... Mais vous savez, pour cloner un humain, c'est pas plus compliqué que pour cloner une brebis. Ce qui veut dire que quelqu'un a pu le faire quelque part. Je n'en sais rien. Je vous dis ça sans aucune information autre que ça. Je vous livre simplement le fait que ce ne serait pas tout à fait impossible que quelqu'un se soit amusé à le faire. Mais le clone, est-ce que c'est moi? Finalement, le clone, est-ce que c'est moi? Est-ce que si je me clone, est-ce que c'est moi? Non. Ah, mais non. Ça, c'est pas de l'immortalité parce qu'on n'est pas en continuité relationnelle. Je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est pas le même vécu. C'est plus du tout le même vécu. Je vais m'aller plus loin. On nous a toujours dit, c'est vrai, que dans notre corps, notre ADN est unique, n'est-ce pas? C'est ainsi qu'on peut se faire pister par la maréchaussée royale. Eh bien, l'ADN, on le sait, donc unique, parfait. Mais ce qu'on ne savait pas, et qu'on sait depuis quelques années simplement, quelques dizaines d'années quand même, c'est que l'expression de l'ADN est unique. On appelle ça l'épigénétique. Si vous ne savez pas ce que c'est très simple. L'ADN est une molécule dont les propriétés vont évoluer en fonction du micro-environnement dans lequel il est plongé. Pour reprendre un cas tout simple, le cas de la grossesse. Madame Machin attend un enfant. Si cette dame est stressée ou pas, eh bien l'expression de l'ADN sera différente. Parce que son micro-environnement va amener à ce que l'ADN se déploie d'une manière ou d'une autre. Ainsi donc, vous prenez deux œufs homozygotes, deux œufs parfaitement identiques, que vous placez au sein de deux femmes différentes, l'expression de ce génome unique sera diverse. Vous n'aurez jamais des gens identiques. Et en outre, attendez, c'est pas fini, parce qu'on passe pas notre vie dans le ventre, dans le creux de notre mère. On continue bien longtemps après, et l'épigénétique continue. Toute notre vie. On sait très bien, on l'a toujours su ça, qu'on dit, mais on somatise. Oui, ben c'est oui, on somatise. Quand on peut être stressé, avoir mal au ventre, par exemple. Si vous dites à quelqu'un qui est stressé, mais non, t'as pas mal au ventre, c'est dans la tête, il va dire non, c'est dans le ventre. J'ai mal au ventre. On sait qu'on somatise. On sait que si on est stressé, on peut avoir des cheveux blancs plus facilement. N'est-ce pas? On sait aussi que certaines maladies. Le professeur Guy Laurent, ici à l'Oncopole à Toulouse, l'a montré désormais que certains cancers ont un lien très clair avec notre rapport à notre vécu. Avec notre rapport à nous-mêmes. Ce qui veut dire que, regardez, je suis un être humain. Je me vois être, j'ai conscience de moi, j'ai une idée de moi, qui est mon vécu, et mon vécu touche mon vivant. Regardez comme c'est important. C'est mon vécu qui touche le vivant parce que mon vécu va avoir un sens, va permettre de déployer mon ADN de manière différente, de l'exprimer de manière différente. Donc il y a toujours un cheminement d'aller et retour entre le vivant et le vécu. Autrement dit, si nous reprenons le clonage, eh bien, il y aura deux vécus différents. Deux époques différentes, de temps différents, des relations différentes. Le clone n'est pas vous. Mais pour le clone, c'est plus compliqué. Parce qu'un enfant, on peut dire, tu vois le vieux monsieur là-bas? Eh bien, c'est ton ADN. C'est toi. Ben non, c'est pas toi. C'est ressemblant, mais c'est pas toi. Il y a une discontinuité relationnelle qui amène à une nouvelle épigénétique, une nouvelle façon d'exprimer le vécu. Ainsi donc, il n'y a pas d'immortalité. Il n'y aura jamais d'immortalité en considérant le clonage. Les personnes qui attendent de se faire cloner pour se dire « Eh bien, je continuerai à exister », c'est de la farce. C'est une sorte de reproduction différente, mais avec des êtres humains différents, radicalement différents à chaque génération, mais simplement qui auraient, dans ce cas-là, des caractéristiques génétiques beaucoup plus proches, quasiment identique à celle des parents. Ou plutôt du parent. Parce qu'en plus, le clone, c'est que vous. C'est moi. Vous êtes de Funès, c'est moi. Ouais, c'est un peu ça. C'est ce côté-là. Donc ça, c'est important, voilà. On n'est pas dans l'immortalité quand on parle du clonage. Enfin, la synchronisation artificielle de l'ensemble des cellules somatiques. Alors ça serait intéressant. Vous imaginez, on a bloqué toute la mémoire du temps de toutes nos cellules du corps. Alors, il y en a des cellules, hein. Il y en a beaucoup. Donc, il faudrait que toutes ces cellules, toutes en même temps, parfaitement coordonnées, puissent oublier leur temporalité. Alors, jusqu'à présent, ça, on ne sait pas faire. Mais quand bien même serait-on faire? Regardez, pourquoi sommes-nous passés de bactéries de l'âge de 13,6 milliards d'années à nous, Homo sapiens sapiens ou à peu près sapiens? Pourquoi? Parce que le vivant est tout sauf parfait. Ça, c'est très important. Le vivant est radicalement imparfait. À chaque duplication moléculaire, réplication moléculaire de l'ADN, par exemple, à chaque duplication d'une cellule, eh bien, l'ADN, il se trompe. Le vivant se trompe comme, vous savez, là, l'humaine, dont on a parlé devant l'arbre. Elle peut se planter, elle répond bien ou pas bien. Le vivant n'est pas parfait. Et c'est parce qu'il n'est pas parfait que dans toute son imperfection, il peut s'adapter. Si le vivant avait été parfait, si chaque cellule, si la première cellule vivante, il y a 13,6 milliards d'années à peu près, avait été absolument parfaite, avait des duplications parfaites, avec un ADN parfaitement copié-collé, comme on dirait de nos jours, eh bien, ça n'aurait pas bougé. Ça n'aurait pas bougé du tout. D'autre part, quand on parle de mort, tout à l'heure je vous ai parlé de cette petite fleur-là qui fait ses rhizomes. Finalement, est-ce que la mort, si je vous ai parlé tout à l'heure d'information, quelque part la mort, pour la connaître, il faut s'être au moins battu contre. Ne fût-ce que s'il y a que 5 minutes. Une minute. Il faut se battre. Connaître la mort, c'est avoir vécu un moment où on a se dit non, j'en veux pas, je me battrai. Que ce soit consciemment ou inconsciemment. Un être parfait ne connaît rien d'autre que l'arrêt. Une bactérie s'arrête alors, si elle est parfaite. Elle ne combat pas, elle ne s'adapte pas. Elle ne fait pas en sorte de trouver de nouvelles façons de s'adapter à des nouvelles conditions de vie. Une bactérie, tant qu'elle se bat contre la mort, elle est vivante. Si une machine, elle, ne se bat pas contre la mort, une machine s'arrête. Vous lancez une machine, quand elle a plus de carburant, elle s'arrête. Elle va dire, tiens, vous imaginez une voiture qui va dire, tiens, j'ai plus de carburant, on va trouver une parade, toute seule, dans son moteur, on va utiliser autre chose pour avancer quand même, parce que j'ai envie de continuer, et j'aimerais que mon chauffeur, là, il aille jusqu'au bout. Ben non! Une machine s'arrête. Eh ben nous, les corps vivants, on ne s'arrête pas. On meurt parce qu'on ne peut plus s'adapter, mais on sait adapter. Chacun de nos corps s'est adapté à nos environnements. Il mourra parce qu'il a su au moins s'adapter. Ça, c'est extrêmement important. Ce qui veut dire que si on arrivait à faire en sorte que nos corps ne puissent plus s'adapter, parce que c'est l'adaptation qui fatigue le corps. Il faut trouver ces moyens de s'adapter. Il faut trouver ces nouvelles stratégies. Mais si on n'a plus ça, ben quelque part, on ne meurt plus, mais on ne vit plus. On devient des vraies machines. Quelque part, l'immortalité de cette synchronisation de chromosomes n'est plus du vivant. Ça voudrait dire que nous serions devenus vraiment des machines, des robots qui un jour, finalement, peut-être s'arrêteraient ou pas, mais qui n'auraient plus cette volonté, inconsciente ou consciente, de s'adapter coûte que coûte pour ne pas mourir. Même, un fœtus qui a vécu peu s'est adapté. Il a fait quelque chose. Il a vécu, lui. Ça, c'est important. Lui, il a vécu, pas une machine. Ainsi donc, oui, l'immortalité humaine, non, pas dans ces façons-là, en tout cas naturelles, que je vous ai décrites, qui existent dans la nature. Pas encore, mais à ne peut-être pas nécessairement le souhaiter. Hein, car en effet, le vivant, je vous l'ai dit, c'est une relation avant tout. La relation. La relation qui fait que le vivant n'est pas modélisable. Contrairement à un cristal, vous savez, les cristaux sont modélisables par les sciences, ce sont des états successifs de la matière que l'on peut parfaitement prévoir et décrire. Le vivant, on a l'impression que le temps passe en lui, qui fait qu'on ne peut pas décrire des états successifs de la matière, car les états de la matière s'englobent l'un dans l'autre, si vous voulez. Ce sont des boucles de réactions qui font que le vivant, lui, il est en relation, c'est-à-dire qu'il se laisse informer. Je ne suis vivant que parce que je suis en relation avec quelqu'un. C'est-à-dire que si je rencontre quelqu'un, le regard de quelqu'un, l'amour de quelqu'un ou la haine de quelqu'un, je ne suis plus jamais le même. Dans notre vivant, dans notre vie, dans notre vécu, nous avons engrammé au fond de nous tout ce qui fait notre passé, tout ce qui fait que ce que nous portons en nous, y compris des gens qui sont désormais morts, mais nous les portons, ils sont là. Ils nous ont touchés, ils nous ont fait, ils nous ont informés et nous informons à notre tour. Nous ne sommes pas des cristaux avec des états successifs de la matière, nous participons à cette relation complexe. Et cette relation, elle est relation parce qu'elle est adaptation. On s'adapte aux autres comme ils s'adaptent à nous. Et cette adaptation passe par quelque chose qu'on appellera plus tard la mort. Parce que ce n'est pas parfait. Y a-t-il quelqu'un de parfait dans la salle? Vous, je m'en doutais un peu. Hein. Depuis tout à l'heure, là, j'avais dit, là, quand même, il y a quelqu'un de parfait. Mais bon, à part monsieur, immortel donc, cette notion de relation est extrêmement importante. Parce que le vivant n'étant que relation, et la relation s'oppose même, je dirais, à l'idée d'immortalité. Du moins physiologique. Relation imparfaite, je vous l'ai dit, voici une molécule d'ADN, je passe rapidement pour vous dire qu'effectivement, tout ça, ça, à chaque fois qu'il y a des réplications, elles se trompent, les atomes sont pas où il faut, les molécules sont pas où il faut, ça se plante et ça permet de vivre. Donc, l'immortalité, je vais terminer, chère madame, l'immortalité reviendrait à contrôler parfaitement, je dis bien parfaitement, l'ensemble de la physiologie. Or, le vivant n'est par définition imparfait. Hein. C'est adaptation par essai, erreur, mutation, dont je viens de vous parler. Donc, l'immortalité n'est pas vivante. C'est plus vivant, l'immortalité. C'est ça qui est ennuyeux. C'est-à-dire que finalement, ce serait quoi, l'immortalité? Ça serait rendre l'imparfait parfait. Nous sommes imparfaits parce que vivants. Donc, pour être immortel, il faudrait qu'on soit parfait. Si on est parfait, on ne s'adapte plus. Vous avez compris. Ça veut dire rendre inaccompli l'inaccompli accompli. C'est-à-dire que moi, en tant que vivant, je suis inaccompli. Je vais mourir, puis d'autres succéderont, etc., 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 après, bien évidemment. Mais si je voulais être immortel, il faut que je sois accompli. Parfait. Teleios, en grec. Je suis encore mort. Et tout simplement, ce qui est rigolo, c'est que l'immortalité, eh bien, c'est rendre le vivant non vivant. C'est un concept, hein, mais c'est ennuyeux. C'est ainsi qu'on est vraiment dans la... Je reprends ce qu'on a dit au tout début, hein, la confusion entre de l'arbre des vies et celui de la connaissance du bon et du mauvais. C'est-à-dire finalement, eh bien, quand on nous promettait « nous ne mourrons pas de mort », eh bien, si on est vivant, si on est immortel, on est mort. C'est vraiment la promesse, là. Vous mourrez. Et toucher à l'immortalité, c'est toucher à la mort. Mais vous mourrez totalement. Et je terminerai là-dessus, parce que peut-être que ce sera un débat que nous pourrons avoir. Vous devez savoir qu'actuellement, la notion juridique d'indisponibilité du corps humain est beaucoup remise en question. Beaucoup se disent, mais finalement, le corps nous appartient. C'est mon corps, j'en fais ce que j'en veux. C'est parce que j'en fais ce que j'en veux que je peux me perfectionner, me perfectibiliser, etc., etc., et que je voudrais devenir donc immortel. Et cette notion d'indisponibilité du corps humain, on va voir qu'elle a un rapport avec ça. C'est-à-dire qu'effectivement, dès lors que l'on peut penser que le corps est à moi, appropriation de l'arbre de la vie, hein, si le corps est à moi, alors cette appropriation peut m'amener à considérer que finalement, je n'ai pas besoin de relation à l'autre. J'ai besoin que de moi. La relation ne m'importe peu, la relation elle va me faire mourir, au contraire, elle me fatigue la relation. Elle m'énerve, elle me fatigue. On s'énerve tous les uns les autres. Et voilà, ben c'est la vie. Ainsi donc, la vie, c'est l'éternité. Cette vie dans Dieu, de vie de Dieu, dont on a souvent entendu parler, que nous connaissons tous. Dieu est éternel, il n'est pas immortel. Est-ce qu'il a un commencement, Dieu? Ah, il est athanatos, ça c'est vrai, mais enfin, éternité de Dieu. Et le vivant et le vécu, eh bien oui, ça c'est quelque chose qui amène peut-être, sur le fond physiologique, hein, à de l'immortalité, mais si ça amène à l'immortalité, c'est de la mort.